Vous écoutez On lit pour vous. Le calvaire de la maladie mystère, un texte de Chantal Srivastava, publié dans l'actualité édition de mai 2026. Démence à progression rapide, perte de mémoire, hallucinations, spasmes, tremblements, douleurs dans les membres, atrophie musculaire et perte de poids font partie du cortège de symptômes qui affligent de nombreux patients venant surtout de la péninsule acadienne et de la région de Moncton. Alors qu'ils étaient une vingtaine en 2019, ils sont maintenant au moins 400 âgés de 18 à plus de 80 ans. Cette saga qui secoue le Nouveau-Brunswick depuis des années n'est pas sans rappeler l'histoire fort médiatisée des personnes souffrant de sclérose latérale amyotropique en Estrie et dans Charlevoix, qui soupçonnent que la présence marquée de cette terrible maladie neurologique dans leur secteur est liée à la pollution environnementale, ce que les autorités de santé publique n'ont pas pu démontrer. Au Nouveau-Brunswick, cependant, le diagnostic est loin d'être aussi évident, car les gens sont atteints de ce que les autorités sanitaires ont convenu d'appeler, guillemets, une maladie neurologique non diagnostiquée, fin des guillemets. S'agit-il d'une nouvelle maladie ou plutôt d'une ou plusieurs maladies connues mal diagnostiquées? Au fil des ans, la science a tranché en faveur de la seconde possibilité, mais le doute persiste chez certains patients, tout comme chez Allier Marrero, le neurologue de Moncton qui a lancé l'alerte et constaté la plupart des cas. Depuis que cette triste histoire défrait la chronique, les autorités sanitaires ont réalisé 2 enquêtes sans pouvoir trouver de preuves confirmant l'existence d'une nouvelle maladie ni établir de cause commune. Santé publique Nouveau-Brunswick a publié le premier rapport de son médecin hygiéniste en chef en février 2022. Après avoir analysé 48 dossiers, des neurologues ont diagnostiqué des problèmes de santé connus tels l'Alzheimer, la démence à corps de Lewy, l'encéphalopathie traumatique chronique, le syndrome de fatigue chronique et le cancer. 3 ans plus tard, en mai 2025, une étude portant sur 25 cas publiée dans JAMA Neurology allait donner des résultats semblables. Mais cela n'a pas suffi à rassurer les patients et leurs neurologues qui soupçonnent que des contaminants environnementaux sont à l'origine des symptômes observés. Remplissant une promesse électorale de la première ministre de la province, Susan Holt, qui s'était engagé à ce qu'une enquête scientifique en bonne et due forme soit réalisée, le bureau du médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a donc publié une seconde étude en janvier 2026. Dans ce rapport, il conclut que les troubles ne semblent pas dus à l'exposition aux herbicides, comme le glyphosate ou aux métaux, comme l'arsenic, le plomb ou le mercure, contrairement à ce que soutient le docteur Marrero. Le rapport concerne 222 patients qui n'ont subi aucun autre examen médical ni fait l'objet de nouveaux prélèvements. Les experts mis à contribution ont plutôt revisité les résultats d'anciennes analyses d'échantillons de sang et d'urine qui avaient amené le docteur Allier Marrero à suspecter une contamination environnementale. Ils ont ainsi pu confirmer que la grande majorité des taux mesurés se situent dans la fourchette des valeurs de référence définies comme normales. Ils déplorent par ailleurs le manque de rigueur dans les analyses de suivi des rares cas où des valeurs élevées ont été enregistrées. Ils notent aussi que globalement, les taux de contaminants mesurés chez la cohorte de patients sont semblables à ceux tirés d'études menées auprès des populations du Canada et de l'Atlantique, de sorte que l'enquête ne révèle aucun signe d'un problème généralisé parmi ces patients. Fait à signaler, le rapport écorche au passage le Dr Marrero, sans le nommer, dans une conclusion lapidaire affirmant, citation, que les démarches très publiques et proactives entreprises par le médecin déclarant, fin de citation, et le, citation récit clair et non contesté, ellipse, perpétué dans les médias, fin de citation, ont alimenté à tort, citation, la méfiance envers les institutions publiques, fin de citation. Les auteurs soulignent également que la qualité des données accessibles limite la possibilité de répondre à certaines questions. Par exemple, pour des métaux comme le cobalt, le nickel et le zinc, moins de 5 échantillons ont été recueillis, une taille jugée insuffisante pour réaliser une analyse complète. Difficile de demander aux patients de se soumettre de nouveaux tests et examens, mais c'est peut-être le prix à payer pour aller au fond de cette triste histoire. Ces derniers auraient tout intérêt à solliciter un deuxième avis et à collaborer avec les autorités sanitaires, qui devraient pour leur part songer à mettre au point une batterie de tests universels pour tous ceux qui souhaiteraient s'en prévaloir, afin de faire une fois pour toutes la lumière sur la situation et surtout de calmer les inquiétudes des patients et de leurs proches. Fin de Le calvaire de la maladie mystère, une chronique signée Chantal Srivastava, publiée dans l'actualité, édition de mai 2026.
Choses à savoir avant d'acheter une maison en zone inondable. Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 27 mai 2026 dans le magazine Urbania. Tout le monde, ou presque, rêve d'une maison au bord de l'eau où couler des jours paisibles. Jusqu'au moment où cette fameuse eau décide de s'inviter dans votre sous-sol, ou pire, dans votre salon. Avoir une maison dans une zone inondable, est-ce que c'est gérable ou est-ce la pire décision à prendre dans une vie? Sur Reddit, une personne demande si elle a fait une gaffe en faisant une offre d'achat sur une résidence qui, en vertu de la nouvelle cartographie, se trouve maintenant en zone inondable. La plupart des réponses sont négatives. Un utilisateur raconte avoir acheté une maison inondable sans le savoir. Annule au plus vite. Ce n'est plus assurable une fois que tu as été inondé et tu ne veux pas le trouble de gérer les pompes, de faire des sacs pour protéger ta maison et tout le reste après l'inondation. C'est l'enfer. Une inondation, ce n'est pas un jour, c'est des semaines parfois. Le temps que l'eau monte, que l'eau reste et que ça redescende et tout le « après » à gérer. Au Québec, ce sont environ 340 000 habitations qui se situaient en zone inondable en 2023, selon le Bureau d'assurance du Canada. Un chiffre qui serait fort probablement revu à la hausse, étant donné que la cartographie des zones inondables a été revue entre 2020 et 2026 à la suite des inondations printanières de 2017 et de 2019. Un changement fait dans le but de diminuer le nombre de sinistres et les dommages qu'ils encourent, aussi bien pour les gouvernements que pour les particuliers et leurs assureurs. Ce nouveau cadre réglementaire est entré en vigueur le 1er mars 2026. Il prévoit resserrer ce qui sera permis de construire ou de reconstruire dans des zones plus à risque. C'est donc un « pensez-y bien » si vous envisagiez d'acheter et ou de rénover une propriété. Si la propriété convoitée continue de vous faire les yeux doux, voici quelques conseils pour prendre une décision éclairée. 1. Comprendre le terrain. Au-delà du look moderne de la maison ou de son charme patrimonial, le terrain sur lequel elle repose est l'information la plus importante à considérer. Oui, même plus que la présence d'un garage ou d'une piscine. Les informations sur les zones inondables devraient normalement se trouver sur le certificat de localisation de la propriété que vous pourrez consulter au moment de l'achat. Vous pouvez également consulter la municipalité pour savoir à l'avance si le secteur est considéré à risque ou non. Pour en avoir le cœur net, entrez l'adresse de la propriété dans la carte des zones inondables et de mobilité des cours d'eau du gouvernement du Québec. Un autre bon indice pour savoir si la maison est à risque d'être engloutie par les crues, bon, j'exagère un peu, est la pente du terrain. Est-ce que celui-ci est aménagé de manière à ce que l'eau s'écoule en s'éloignant de la maison? Parce que mieux vaut savoir avant qu'il ne soit trop tard. 2. Se renseigner sur l'historique des crues dans le secteur. Y a-t-il des débordements chaque 2 ans ou n'y a-t-il eu qu'une grande inondation en genre 1973? Connaître l'historique des crues dans le secteur, particulièrement au cours des 10 dernières années, vous permettra d'évaluer le niveau de risque de la propriété. C'est ici que la recherche se complique. Tentez de consulter les médias locaux, les données météo, ou de sonder des voisins qui demeurent dans le quartier depuis plusieurs années. Mais surtout, ne faites pas l'autruche. Le sable, ce n'est pas pour se mettre la tête dedans. C'est pour empêcher l'eau de s'infiltrer. 3. Si c'est trop risqué pour l'assureur. Les assureurs disposent de leur propre cartographie pour déterminer le niveau de risque et certains ne couvrent plus les propriétés en zone inondable. J'étais intéressée à acheter une maison dans une zone inondable. J'ai appelé des compagnies d'assurance qui m'ont dit qu'elles n'assuraient tout simplement pas ces maisons. Après plusieurs recherches, on a décidé de ne pas acheter. Meilleure décision, indique un internaute sur Reddit. Selon le Journal de Montréal, il n'y a que Co-Operators qui assurent n'importe où. D'autres assureurs, comme Desjardins, Beneva, Intact et Promutuel, offrent une protection contre les inondations, mais celle-ci se fait par avenant et entraîne donc une surprime. Sachez aussi que la valeur de l'indemnité est plafonnée. Donc, même avec cet avenant, il se peut que vous ayez à débourser par la suite si vous êtes à nouveau victime d'un sinistre. Bref, si plusieurs assureurs réagissent à votre adresse comme si vous essayiez d'assurer un volcan actif, il y a peut-être là un message à saisir. 4. Si la banque elle-même ne veut pas toucher à ça. Comme les assureurs, certains prêteurs hypothécaires n'offrent plus de financement pour l'achat de résidences en zone inondable. Quand tu viendras pour la revendre, ton acheteur ne pourra pas emprunter. Ça fera descendre la valeur de ta propriété. Les banques ne prêtent plus dans les zones inondables ou à risque d'éboulement. Et l'assurer ne coûtera pas une fortune, mais une dizaine de fortunes. Et dans quelques années, ils ne voudront même plus l'assurer, prévient un autre utilisateur de Reddit. Comme le marché immobilier est actuellement à la faveur des vendeurs, il est souvent recommandé d'entreprendre des visites en ayant une pré-approbation hypothécaire. Dans votre cas, ce conseil ne sera que plus judicieux. 5. Faire inspecter la propriété. Après toute considération, vous souhaitez toujours faire une offre d'achat sur la résidence riveraine? N'omettez pas de poser plusieurs questions au propriétaire actuel ou son courtier immobilier sur l'historique de la propriété. Ceux-ci sont tenus de vous répondre et vous cacher des sinistres, y compris des inondations, constitue un vice caché. Surtout, faites réaliser une inspection rigoureuse de la propriété par un professionnel et portez une attention particulière au passage de l'eau, qui laisse généralement des traces. 6. Rendre la propriété plus résiliente. Parce qu'on ne peut empêcher la nature de suivre son cours, il existe des manières de se protéger ou de limiter les dégâts potentiels. Quelques dispositifs permettent de rendre votre demeure plus résiliente face au changement climatique. Hormis le remplacement du drain français, l'installation d'un clapet anti-refoulement ou l'achat d'une pompe à puiseur, sump pump, certaines innovations existent pour protéger une propriété d'un débordement riverain. AquaDam, par exemple, est une barrière temporaire gonflable, remplie d'eau, qui agit comme une digue artificielle. Flood Frame, une invention danoise, propose un système permanent enfoui dans le sol qui se déploie automatiquement. D'autres dispositifs misent sur des installations ciblées. Flood Shield, conçu au Royaume-Uni, se fixe directement aux portes pour bloquer l'eau, alors que Flow Stop, une solution française disponible au Canada, utilise des barrières gonflables adaptables aux portes et fenêtres. À plus petite échelle, HydroSac offre une alternative moderne aux sacs de sable. Ces sacs absorbants se gonflent au contact de l'eau et préviennent des infiltrations légères, bien qu'ils ne soient pas adaptés au fort débit. Enfin, le système Watergate, développé à Victoriaville, se distingue par une approche ingénieuse utilisant la pression même de l'eau pour se déployer et ralentir l'avancée des crues. Bien qu'ils n'arrêteront pas les inondations, ces dispositifs vous permettront d'être mieux parés à toute éventualité. 7. Connaissez vos derniers recours. Et si, malgré tout, l'eau s'invite chez vous sans y avoir été convié, plusieurs ressources peuvent vous venir en aide. Réno Assistance propose un guide détaillé pour vous aiguiller après une inondation. Le gouvernement verse aussi des indemnités pour les propriétés inondées jusqu'à concurrence de 162 500 $ pour une maison ou 50 % de sa valeur en construction neuve. Petit bémol toutefois. Depuis 2019, cette somme est cumulable pour la même propriété, c'est-à-dire que si des indemnités ont déjà été versées pour cette maison, la somme disponible en tiendra compte. Si le plafond d'aide financière a été atteint, Québec vous offrira une allocation pour déménager ou du soutien pour déplacer la résidence, entre autres. Oui, on le sait, une maison sur le bord de l'eau, c'est magnifique. Jusqu'à ce que l'eau décide qu'elle habite chez vous, elle aussi. Et contrairement à votre beau-frère qui somnole sur le divan après Noël, vous ne pourrez subtilement lui faire comprendre qu'il est temps de partir. C'était 7 choses à savoir avant d'acheter une maison en zone inondable. Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 27 mai 2026, dans le magazine Urbania.
Le dossier des animaux pourrait être entendu en appel. Un texte de Pierre Saint-Arnaud de La Presse canadienne, paru le 29 mai 2026 dans La Presse. Les locataires pourront-ils contester l'interdiction d'avoir un ou des animaux dans leur appartement? La question se retrouve maintenant devant la Cour du Québec. La cause. Dans une récente décision, la juge Suzanne Guévremont du Tribunal administratif du logement, TAL, a annulé l'interdiction imposée par un propriétaire à sa locataire d'avoir des animaux de compagnie. Cette décision fait l'objet d'une demande d'appel de la part du propriétaire, la société de gestion immobilière Amilis. Le juge Scott Hughes de la Cour du Québec a entendu les parties au dossier jeudi et a mis sa décision en délibéré quant à savoir s'il permettra que l'appel soit entendu sur le fond ou pas. Les multiples questions posées par le magistrat aux parties impliquées laissent toutefois présager qu'il autorisera l'appel. Les questions en jeu. C'est que la décision du TAL a fait surgir un certain nombre d'inconnus et soulevé deux nouvelles questions, explique Maître Marie-Claude Saint-Amand, avocate représentant la SPCA de Montréal. La question vraiment nouvelle, en fait, c'est de savoir si oui ou non une clause comme celle de Mélissa Desjardins, la locataire impliquée, qui interdit les animaux, contrevient à la vie privée parce que ça n'a jamais été traité par la jurisprudence. La deuxième chose, c'est que ça soit à la lumière de l'article qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. Nous, ce qu'on a amené comme argument, c'est de dire que ce sont des membres de la famille et que ça doit être pris en considération parce qu'avant, on considérait que c'était des choses. Mais maintenant, on reconnaît que ce sont des êtres sensibles, donc des membres de la famille à part entière. Et ça, c'est une nouvelle question qui peut être de l'intérêt de la Cour du Québec. Plaidant pour le propriétaire, Maître Damaris Pineda a notamment fait valoir que la manière dont la juge Guévremont a rédigé sa décision revient à invalider la clause interdisant les animaux, ce qui s'appliquerait donc à tous les baux du Québec. Elle soutient de ce fait que la juge ne pouvait prendre une telle décision sans passer par le législateur, en l'occurrence le procureur général du Québec. Maître Saint-Amand réplique que non. La juge Guévremont a vraiment appliqué la décision au cas de Mélissa Desjardins. Ça peut servir de précédent, absolument, mais ça ne veut pas dire que la décision a un effet dans tous les baux du Québec. C'est la différence, mais ça peut être un précédent qui peut être appliqué. Évidemment, si on va devant la Cour du Québec, ça va devenir un précédent sur lequel les tribunaux, le tribunal administratif du logement, va devoir s'appuyer. La posture de la SPCA. Cette cause pourrait très bien être portée d'appel en appel jusqu'à la Cour suprême. Mais ce n'est pas ce que souhaite la SPCA. Elle qui doit recueillir tous les animaux qui lui sont confiés par des locataires qui ne trouvent pas de logement prêt à accueillir leurs compagnons. Comme l'explique la directrice des affaires juridiques de la SPCA de Montréal, Mme Sophie Gaillard, il y aurait une autre solution qui, elle, s'appliquerait à tous. Il y a une façon très simple de régler la situation. C'est de légiférer pour empêcher les propriétaires d'interdire les animaux de compagnie, comme l'ont déjà fait d'autres juridictions dans le monde et comme l'a proposé Québec solidaire en 2023. Et on attend toujours que le gouvernement et les partis politiques se positionnent clairement sur cette question-là. Selon les dernières données de la SPCA, 87 % des logements au Québec interdisent les animaux ou ne les acceptent qu'à de strictes conditions. C'est rendu quasiment impossible de se loger avec un animal au Québec, et ce, en pleine crise du logement, alors que c'est maintenant plus d'un foyer sur deux qui comprend un chat ou un chien, déplore Maître Gaillard. À l'argument toujours évoqué par les propriétaires, soit celui des nuisances que peuvent causer les animaux de compagnie, elle réplique qu'il existe un cadre juridique très robuste pour les protéger. On a des protections solides actuellement en place en vertu du Code civil du Québec qui protègent les propriétaires, qui font en sorte que des locataires qui causent des dommages sont redevables, doivent compenser, doivent garder le logement en bon état. En plus de toutes ces protections-là, on a de la réglementation municipale en vigueur à travers le Québec qui circonscrit le nombre d'animaux qu'on peut avoir dans un logement, le type d'animal qu'on peut avoir, qui régit aussi la salubrité, les nuisances, les dérangements qui peuvent potentiellement être causés. Le bien-être des autres locataires. Maître Pineda a cependant fait valoir, en contrepartie, que la Charte des droits et libertés protège aussi le droit à la vie, à la santé et à la sécurité des autres locataires d'un immeuble qui peuvent avoir peur d'un animal, être allergiques ou qui ne veulent pas être dérangés par le bruit. Elle a reproché à la juge Guévremont d'être demeurée muette sur ces questions. La loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, invoquée par la magistrate, protège le bien-être des animaux et non celui des humains, a rappelé Maître Pineda, qui a aussi fait valoir que le législateur a aussi permis aux propriétaires d'interdire l'usage du cannabis dans leur logement, malgré la légalisation et le droit à la vie privée. La suite des choses. Le juge Hughes n'a pas indiqué quand il déciderait si la Cour du Québec accepte d'entendre ou non l'appel. C'était « Le dossier des animaux pourrait être entendu en appel », un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne, paru le 29 mai 2026 dans la presse.